autour de la question.
Qu'est-ce que c'est ?
Pourquoi c'est comme ça ?
Comment fait-on ?
Qu'est-ce que ça va changer ?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditrices et auditeurs, pour une odyssée fascinante, une plongée au cœur même du vivant et des infimes cellules qui le composent. Car tout ce qui vit sur Terre, des bactéries aux arbres et aux humains, est constitué de cellules ayant pour origine une seule et même cellule ancestrale commune, LUCAS, Last Unique Common Ancestor. Comment cet ancêtre commun à tout le vivant est apparu il y a des milliards d'années et a évolué jusqu'à former tous les organismes anciens et actuels. Pourquoi comprendre l'origine et le fonctionnement de ces cellules, c'est découvrir la formidable unité du vivant. Un voyage fascinant dans le temps et dans l'infiniment petit que nous avait proposé le biologiste et artiste Christian Sardet. Le 25 octobre dernier, en direct sur notre antenne, le cofondateur de l'expédition Tara Océan, éminent spécialiste du plancton, des molécules, des cellules et des embryons, qu'il ne se contente pas d'étudier mais qu'il dessine et photographie aussi, nous avait ouvert les yeux sur les cellules, une histoire de la vie, titre de son superbe album Entre art et science, paru aux éditions Ulmer. Nous vous proposons de réécouter cet entretien autour de la question « Pourquoi une telle unité et diversité du vivant ?» Bienvenue pour remonter carrément aux origines de la vie.
Un beau jour, ou peut-être une nuit, est apparue la première cellule définie comme telle. Un organisme autonome, délimité par une membrane, capable de se reproduire. Les scientifiques l'ont appelé « LUCA ». Ancêtre de tous les organismes de notre planète. Un modèle hypothétique de cellules dont nous ne trouverons jamais de traces. Aussi, pour appréhender l'évolution et la diversité du vivant, nous observerons de microscopiques organismes actuels.
Extrait de « Au cœur du vivant, la cellule », une série de documentaires que vous avez réalisé pour CNRS Images avec Véronique Kleiner. Christian Sardet, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous autour de ce fabuleux ouvrage. Vraiment, le mot n'est pas trop fort. « Les cellules, une histoire de la vie ». Alors après « Plancton, aux origines du vivant », votre premier opus aux éditions Ulmer, qui a connu un succès mondial. Et pour cause, car vous avez, Christian Sardet, un œil d'artiste et une plume de scientifique, à nul autre pareil, pour faire passer, pour nous donner à voir dans toutes leurs couleurs, dans toutes leurs formes les plus étranges, les merveilles du vivant dans l'infiniment petit. Une démarche qui mêle art et science. D'ailleurs, une question se pose au fond pour définir le scientifique que vous êtes, artiste ensuite. Comment vous conciliez les deux, Christian Sardet ?
Parce que j'ai toujours aimé dessiner ou peindre. Et en même temps que les mots me viennent des images et la volonté de les transcrire en dessin ou en peinture. Et aussi parce que je pense que la science, en particulier la biologie, est souvent associé pour les gens avec l'école, quelque chose d'un petit peu rébarbatif, un blocage. En plus, c'est très difficile de connaître les mots, donc c'est quelque chose de très ésotérique. Et il faut passer cette barrière, et pour passer cette barrière, je pense qu'il faut utiliser d'autres choses que les mots, et les dessins sont une bonne façon de faire passer...
Les couleurs aussi, hein. On reviendra sur ces dessins, sur ces images qui font parfois penser à des dessins aborigènes. Mais je rappelle tout de même que vous êtes microbiologiste et biochimiste, hein, de formation, directeur de recherche émérite CNRS au laboratoire Biodev de l'Institut de la mer de Villefranche-sur-Mer, cofondateur de l'expédition Tara Océan, qui a recensé dans tous les océans du globe et pour la première fois des millions d'organismes marins inconnus, que les chercheurs d'ailleurs continuent de découvrir et d'étudier aujourd'hui en laboratoire, et que vous êtes aussi, Christian Sardet, concepteur de films, de dessins animés, dont les fameuses chroniques du plancton, et donc de ce superbe ouvrage sur les cellules, une histoire de la vie, qui nous interroge aujourd'hui. Alors pourquoi et comment vous êtes-vous lancé dans cette entreprise assez folle, hallucinante, de raconter au fond, l'histoire de la vie à partir de la toute première cellule ancestrale, ce fameux LUCA dont certains de nos auditeurs, notamment nos fidèles auditeurs de Madagascar, la famille Rakoto, veulent tout savoir. Comment avez-vous décidé de raconter la vie à partir de LUCA ?
Pour moi, c'était une façon de refaire mon éducation, même en tant que biologiste, en tant que chercheur. Tous les chercheurs sont extrêmement spécialisés. Et bien que j'ai travaillé sur pas mal de questions, de problèmes biologiques, j'avais envie de faire un tour général des connaissances et aussi de rétablir un certain équilibre entre des connaissances en biologie. Par exemple, tout le monde connaît l'ADN, tout le monde pense que l'hérédité, c'est la discipline reine de la biologie, mais personne ne se pose la question, par exemple, de savoir d'où vient l'énergie pour que les cellules vivent, pour la vie en général. Donc, j'avais cette ambition de mettre sur un pied d'égalité ces différents aspects. Et donc,
et justement, de nous faire connaître ce Luca, cet ancêtre commun à toute la vie, à toutes les formes du vivant, tout a commencé. Est-ce que vous pouvez nous le décrire, tiens, puisque vous le dessinez tout de même, Luca Kiki. Il apparaît hein, dans vos
oui,
pages,
oui, bien sûr.
Christian Sardet.
Alors, bon, il y a une littérature énorme sur Luca. Hein. Je suis même vraiment très étonné qu'il n'ait pas atteint le public.
Il pourrait être connu comme le Big Bang, hein, Luca, en fait.
Absolument,
hein,
c'est le Big Bang de la biologie.
C'est ça, qu'on ne voit pas, qu'on ne peut pas voir.
Pour des raisons qui sont difficilement explicables, bien que les biologistes, pas seulement les biologistes, mais même les philosophes et puis les gens qui étudient les phénomènes terrestres, les chimistes, etc., tous parlent de Luca depuis maintenant une trentaine d'années. Ils se sont mis d'accord sur ce nom qui est un acronyme qui veut dire « The Last Universal Common Ancestor ». C'est un acronyme anglais qui dit bien ce qu'il veut dire, c'est notre ancêtre commun à tous. Il y a de bonnes, très bonnes raisons, et ce n'est pas remis en doute par la communauté scientifique, que toute la vie est issue d'une même cellule qu'on appelle symboliquement Luca, un peu comme les physiciens appellent cet événement majeur de la naissance de l'univers, de Big Bang. Voilà.
Et alors, Luca, comment le dessinez-vous, Luca, cette première cellule dont on s'issue toutes les autres cellules voilà. Qui forment le vivant.
Alors là, évidemment, quand on dessine, c'est pour ça que j'ai mené les deux de front. Mmh. C'est parce que quand on dessine, on est forcé d'être un peu plus précis qu'avec les mots. On peut laisser beaucoup plus d'ambiguïté dans le langage parlé. Dans le langage dessiné, il fallait que je me mouille un peu plus. Mais parfois, j'ai aussi laissé beaucoup d'ambiguïté dans mes dessins.
Ouais.
Alors, Luca avait-il une membrane ? Parce qu'on considère que toutes les cellules sont délimitées par une enveloppe qu'on appelle une membrane, qui en fait définit l'espace intérieur et l'espace extérieur. Il n'est pas absolument certain que Luca ait une membrane. La plupart des biologistes pensent que oui, mais on peut imaginer que peut-être Luca était l'intérieur d'une cellule telle qu'on l'a aujourd'hui, mais ultra simplifiée, dans une microchambre des abysses, par exemple. Du moins, l'ancêtre de Luca, ce qui a donné naissance à Luca, est probablement ce genre de choses qui n'avait peut-être pas sa propre membrane. Bon, dans le livre, je dessine Luca un peu de façon énigmatique, de cette façon. Parce qu'on ne sait pas vraiment, évidemment. C'est un concept.
Et au fond, on ne saura jamais. C'est un concept.
On ne saura jamais.
Ensuite, c'est donc cette première cellule qui a donné naissance à toutes les autres cellules, aux cellules originelles. On appelle, c'est les bactéries, c'est les archées, c'est ça, les toutes premières cellules.
Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que parmi toutes ces premières cellules descendantes de Luca, seules les archées et les bactéries sont avec nous.
Aujourd'hui.
Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres choses qui s'appelleraient d'autres noms au départ et qui ne sont pas parvenues jusqu'à nous. Mais il est certain que deux grandes familles de micro-organismes, qu'on appelle prokaryotes parce que ce sont des cellules qui, au contraire de nos cellules, n'ont pas de noyau, n'ont pas emprisonné leurs chromosomes dans des noyaux. Il y a deux grands groupes de cellules, mais c'est une connaissance qui n'est de nouveau pas passée dans le public.
Il faut des couleurs, peut-être, parce que vous leur donnez beaucoup de couleurs à vos
Alors,
à vos
je
cellules.
Leur donne une couleur. Par exemple, j'ai représenté systématiquement les membranes des bactéries en blanc et les membranes des archées qui s'appelaient au début archébactéries. Ça montre bien qu'on était un peu confus sur la chose, en jaune, hein, parce que une des différences essentielles moléculaires entre les deux, c'est que leurs membranes sont constituées de différentes molécules. Donc ça, c'est déjà une différence importante, mais ce n'est pas la seule. Il y a d'autres différences moléculaires importantes entre les bactéries et les archées.
Entre toutes ces vies minuscules, parce que quand même, c'est comme ça qu'on peut parler de cet infiniment petit, et toutes ces vies minuscules ont fasciné, avant vous, d'autres chercheurs, artistes également. Je pense évidemment à Édouard Chaton, auquel votre collègue biologiste, Catherine Jessus, directrice de recherche au CNRS, a consacré un ouvrage, Les vies minuscules d'Édouard Chaton, particulièrement fasciné par les protistes. On en arrive aux protistes qu'il découvrait. Écoutons Catherine Jessus pour comprendre un peu mieux.
Effectivement, ce qui a fasciné Édouard Chaton en 1902, c'est de mettre une goutte d'eau de mer à Roscoff sous son microscope et de voir que ça pullulait d'êtres qui étaient très divers les uns des autres. Donc il y a là effectivement tout un monde, tout un peuple. Et ce qui a aussi beaucoup fasciné Édouard Chaton, c'est de s'apercevoir que ces êtres n'étaient pas à part, qu'ils avaient leur place entière dans le monde vivant. Donc les protistes sont des unicellulaires qui sont dotés d'un noyau, contrairement aux bactéries ou aux archées, ou même aux virus qui sont pas des cellules, en fait. Donc voilà, c'est une catégorie du monde microbien, du monde microscopique, sont les protistes. Ils sont dotés d'une organisation intracellulaire particulière, mais ils ont toute leur place, et même, c'est un objet d'étude extrêmement important à l'époque de Chaton, pour Chaton, mais maintenant, actuellement, pour comprendre l'arbre du vivant, nos origines, à quoi ressemblait la première cellule qui est apparue sur la Terre il y a 3,7 milliards d'années. Les protistes sont apparus bien après les bactéries, mais ils en dérivent. Hein. C'est probablement une association entre une bactérie et une archée qui crée la première cellule dotée d'un noyau, donc le premier protiste. Et c'est ensuite cet arbre bourgeonnant hein, de filiation, de qui descend de qui crée qui au cours de l'évolution, qui fait qu'on aboutit à des êtres multicellulaires. Donc les unicellulaires et les protistes en particulier sont complètement ancrés dans cette grande histoire du vivant qui parcourt notre planète depuis près de 4 milliards d'années. Et c'est également une source, enfin ils sont également bien ancrés dans les fonctionnements de nos cellules. Mmh. C'est-à-dire que nos cellules fonctionnent avec le même équipement, en quelque sorte, à la différence près que, étant unicellulaire, c'est une même cellule qui, au cours de sa vie, fait toutes les fonctions, que nous, dans un organisme, ces fonctions sont réparties entre différentes cellules spécialisées.
Autour de la question, pourquoi une telle unité de la vie ? Est-ce que vous voulez réagir, Christian Sardet, oui, à cet éclairage de Catherine Jessus ?
Oui, d'abord, je voudrais rendre hommage à Catherine, qui m'a beaucoup aidé dans la dernière phase de finition du livre. Et j'étais très content de pouvoir dialoguer avec elle pour améliorer ce qui pouvait l'être. Elle connaît effectivement très bien les choses puisqu'elle était directrice des sciences de la vie au CNRS, donc elle avait une vue assez large des choses qui était parfaite.
Et elle confirme bien, hein, Catherine, juste que ce sont vraiment, on est tous faits des mêmes cellules, il y a une grande différence entre les unicellulaires et les organismes multicellulaires comme nous et comme les arbres et comme les animaux et comme les végétaux.
Les protistes, les amibes, les protozoaires, le blob sont tous des protistes et ce sont nos ancêtres. C'est le prototype de cellules dont nous sommes faits en fait.
Les mêmes briques, hein, les mêmes briques de la vie.
Les mêmes briques. Sauf que, comme le dit Catherine, ils savent tout faire en une seule cellule. Alors ils mangent, ils défèquent, ils attrapent avec une seule cellule.
Alors que nous, cellule est spécialisée.
Voilà, chaque cellule de protiste est capable de faire énormément de choses, alors que nos cellules sont spécialisées et se regroupent ensemble pour faire un organisme plus complexe. Mais grosso modo, c'est le même type d'organisation avec un noyau emprisonnant les chromosomes, des mécanismes qui sont utilisées par nos cellules sont utilisées par les ont été inventées, on peut dire, par les cellules de protistes.
Et c'est ça qui est complètement fascinant et qui fait cette unité de la vie, parce que du coup, la vie va évoluer vers les pluricellulaires. On va passer aux animaux, aux plantes, aux algues, aux champignons. On reste dans l'eau quand on est, parce que on n'a pas dit que tout ça était parti dans l'eau, était né dans l'eau.
Alors il y a beaucoup de protistes. Ancestraux, donc plus d'un milliard d'années avant que les terres immergées soient colonisées par la vie. Donc ces organismes aquatiques avaient déjà toute une façon de se regrouper en colonies, des colonies qui parfois contenaient deux ou trois types de cellules déjà, donc un début de ce qu'on appelle différenciation ou spécialisation. Mmh. Et donc, petit à petit, les organismes multicellulaires comme nous-mêmes, et tous les animaux, les plantes, les champignons, les algues, ont évolué à partir de ces protistes. Donc, les protistes sont vraiment nos ancêtres. Ils sont la brique entre les bactéries et les archées et nous-mêmes.
Et comment vous les dessinez, les protistes ?
Ah ben alors, pour dessiner un protiste, il faut dessiner un noyau, forcément, au centre de la cellule en général, contenant les chromosomes, puisque ce sont des cellules qu'on appelle dites eucaryotes, c'est-à-dire possédant un noyau, contrairement aux bactéries et aux archées qui sont des procaryotes, c'est-à-dire sans noyau. Mmh. Ils ont leurs chromosomes, mais ils ne sont pas emprisonnés dans une structure spéciale. Et en général, ils n'ont qu'un seul chromosome, alors que nous-mêmes avons de multiples chromosomes, comme tous les organismes eucaryotes. Donc ça, c'est déjà une différence principale et ça donne le nom au type de cellule. Mais il y a bien d'autres différences, évidemment. Ils sont capables de faire tout un tas de choses, comme par exemple d'avaler un autre et d'englober un autre, une autre cellule. Ça, c'est des, les protistes sont passés maîtres dans cet art
de poupée russe.
Oui, de s'allier avec d'autres cellules et de les incorporer.
Fond, c'est ça, parce qu'il y a l'alliance dès le début. C'est ça aussi, on se rend compte que la vie et le vivant, c'est une histoire d'alliance.
C'est une histoire d'alliance et de complexification.
C'est
voilà.
Ça. Hein.
C'est 4 milliards d'années ou 3,7 milliards d'années, ça dépend quand la vie a vraiment démarré sur Terre. Peut-être même a-t-elle démarré dans l'espace et est-elle venue déjà sur Terre, ça c'est
tout
une question
ouvert, on ne sait
qu'on
pas,
ignore
hypothèse,
encore.
Hein.
Mais il est clair que c'est un processus de complexification graduelle. C'est ce que je raconte en fait dans ce livre. C'est l'histoire de cette évolution cellulaire.
C'est ça, autour de la question pourquoi une telle unité de la vie, donc depuis les origines jusqu'à cette complexité qu'on connaît aujourd'hui sur Terre, des bactéries aux humains en passant par les arbres et le plancton, la vie secrète du plancton révélée par cette fabuleuse mission Tara qui a même inspiré des musiciens Giralf et Anoni qui ont composé cette musique, on va écouter tout de suite, Mantaray, pour votre film, Christian Sardet, La vie secrète du plancton, la Ray Manta, hein, Mantaray, c'est tout de suite sur RFI.
In the trees, between the leaves, all the growing. That we did, all the loving and separating, all the turning to face. Divide in the sky, in the seams between the beams, or the loving and
Magnifique Mantaret par Anoni et G. Ralph, comme quoi vos travaux, on peut faire feu de tout bois, puisque c'est la musique qui illustrait, composée pour votre film documentaire La vie secrète du plancton, Christian Sardet, inspirée elle-même par la mission Tara Océan. On peut utiliser ses pinceaux, la couleur et la musique pour faire passer la vie et le plancton.
C'est pas tout à fait ça.
Ah.
En fait, Géralf, qui est un compositeur de musique de film, il avait composé Chasing Ice, qui est un grand documentaire sur les glaciers qui fondent il y a une quinzaine d'années. Et Anoni, qui est un de mes chanteurs préférés, qui a changé de nom maintenant parce qu'il est transgenre.
Oui, c'est ça, il s'appelait Anthony. Voilà.
Alors, quand il était encore Anthony, ont composé cette chanson quand ils ont regardé La vie secrète du plancton qu'on avait mis sur l'internet, sur la plateforme TED, et nous ont demandé de faire donc un vidéoclip. Et leur chanson a été sélectionnée pour les Oscars. Ils étaient un des 5 finalistes. Ils n'ont pas eu, je crois que cette année-là, c'était Lady Gaga, je crois, qui avait été récompensée. Mais bref, avait attiré l'attention. Et en fait, c'est ce document est certainement le document qui a été le plus vu avec du plancton. Ce qui veut dire que si on veut faire connaître le plancton, peut-être il faut passer par des chanteurs ou artistes qui n'ont absolument rien à voir avec la chose.
Et qui sont eux-mêmes fascinés par ces images, par ce plancton. Je vous propose tout de suite, chers amis auditrices et auditeurs, puisqu'on est à la radio et qu'on ne peut pas vous montrer des images, d'écouter un petit extrait, parce que vous êtes aussi l'auteur des chroniques du plancton, Christian Sardet, qui ont fait beaucoup pour faire connaître le plancton. On en écoute tout de suite un extrait.
Plancton vient du grec planktos, qui signifie errer. Le plancton, c'est donc une collection d'organismes qui se laissent porter par les courants. Du minuscule virus aux plus longs animaux du monde, les siphonophores, en passant par les algues microscopiques et le krill. Certains dériveront toute leur vie, comme ces salpes. D'autres ne restent dans le plancton qu'à l'état d'embryon ou de larve, comme les mollusques et les poissons, qui, une fois devenus adultes, se fixent ou nagent librement. Le plancton joue un rôle important dans la vie des humains. On pourrait dire, par exemple, que nous respirons grâce à lui. Certaines espèces, en produisant de l'énergie par photosynthèse, génèrent de l'oxygène et absorbent du gaz carbonique. Résultat, l'air que nous respirons est renouvelé. Le plancton est aussi un grand pourvoyeur d'énergie fossile. Depuis plus d'un milliard d'années, il se dépose au fond des océans en mourant, et cette couche de sédiments fossilisés produit le si précieux pétrole. Enfin, le plancton nous nourrit. Il constitue la base de la chaîne alimentaire où les plus gros mangent les plus petits. Sans plancton, pas de poisson.
Vous écoutez Autour de la question, Caroline Nachowski.
De l'importance du plancton et donc de comprendre, d'étudier cet infiniment petit, si varié, si divers. C'était le but de cette mission Tara, dont vous avez été le cofondateur. Vous avez vulgarisé avec vos chroniques du plancton l'importance de comprendre le fonctionnement et rien que de le recenser, de cet infiniment petit dont dépend tout le reste, toute la vie, tout le vivant sur Terre.
Oui, je savais que... Le projet lui-même, qui était formidable, était basé sur des analyses génétiques, ça n'allait pas vraiment parler aux gens.
C'est ça.
Donc c'était une façon d'accompagner l'expédition avec tous ces organismes, en fait. Ils ont des comportements, ils ont... Voilà, ils sont des organismes complexes, même
et si... Ils sont fabuleux. Voilà. Quand vous les dessinez, enfin, moi, le plancton, voilà, grâce à vous, ils sont absolument fabuleux. Oui. Et vous montrez aussi, Christian Sardet, on vous l'avait évoqué tout à l'heure, que la vie, elle a besoin de moteur et qu'elle a besoin d'énergie.
Oui.
Et...
Alors, sur les chroniques du plancton, je voudrais ajouter quand même, rendre hommage, je ne l'ai pas fait tout seul, de loin, j'ai travaillé sur ça avec mon fils, qui était très impliqué dans cette entreprise multimédia, et puis aussi au début, Véronique Kleiner, avec qui j'avais fait le DVD. J'ai été aidé par des bonnes volontés, je dois dire, ce qui a beaucoup aidé à la réalisation de ces documents.
Il faut dire aussi, comme dans tout ce qui vit et tout ce qui est vivant, finalement, ça peut se faire
qu'en
collectif,
en
symbiose. On va y revenir, mais je voudrais vous entendre sur cette question de l'énergie, parce que c'est ça aussi qu'on découvre, notamment dans cet ouvrage, « Les cellules, une histoire de la vie », c'est que le vivant, il marche... à l'hydrogène.
Oui.
Ça m'a scotché.
Alors, ça, c'est quelque chose. De nouveau, je suis toujours surpris du peu de crédit ou du peu de connaissances. Vulgarisation est un terrible mot. Je préfère dire diffusion des connaissances vis-à-vis de qu'est-ce qui fait marcher la vie. Et en fait, quand on remonte aux mécanismes cellulaires qui permettent à la vie de vivre... il faut de l'énergie tout le temps. Alors, et cette énergie, en fait, elle est générée dans les membranes. Dans
les membranes des cellules.
Dans les membranes des cellules, des bactéries, des archées, donc des prokaryotes et puis aussi des eucaryotes. Toutes nos cellules fonctionnent sur le même mode et c'est un moteur à hydrogène. C'est une découverte qui a été faite par un Anglais iconoclaste dans les années 70, en même temps à peu près que l'ADN a été découvert et le code génétique a été découvert. Cet Anglais, Peter Mitchell, qui avait une fortune personnelle dans son château au Pays de Galles, a dit, mais voilà, c'est l'hydrogène, c'est le fait qu'on fait un gradient d'hydrogène de part et d'autre de la membrane qui est le moteur de la vie. Et il a été raillé par la communauté pendant une bonne dizaine d'années jusqu'à ce qu'on s'aperçoive que M. Mitchell avait parfaitement raison. Et il a reçu finalement le prix Nobel une vingtaine d'années plus tard. Mais peut-être pour ces raisons-là, cette connaissance qui était aussi importante que la découverte
de l'ADN,
du code génétique, on peut dire, puisque c'est vraiment le pendant, un autre aspect cellulaire qui est tout aussi important. N'a jamais été popularisé.
C'est quand même étonnant, parce qu'en plus, aujourd'hui, l'hydrogène revient de toutes parts. On se pose d'énormes questions autour de l'énergie.
Oui, bien sûr.
Et du coup, on se dit, mais pourquoi est-ce que ça n'est pas passé? Alors, peut-être qu'on vous attendait, Christian Sardet.
Alors, j'ai une vague explication. Je ne sais pas si elle est bonne, mais il se trouve que quand Mitchell a fait sa découverte, donc dans les années
1970.
Et puis quand il a reçu son prix Nobel dans les prix des années 80, fin des années 80, on n'avait pas de molécule emblématique. Et comme la biologie était vraiment, particulièrement à cette époque-là, dominée par la biologie moléculaire, ça n'a pas pris. L'ADN étant symbolique, parce que la double hélice parle, évidemment. Mais en fait, les chercheurs ont montré qu'en fait, il y avait une turbine dans la membrane qui s'appelle l'ATP synthase, qui est une très belle molécule qui est en fait comme une turbine avec un rotor et un stator. Était la protéine qui laissait passer les hydrogènes et fabriquait l'ATP, qui est la monnaie énergétique universelle. Donc, la molécule a été découverte trop tard.
On pourrait dire que
si la molécule avait été découverte et son fonctionnement avait été découvert de façon synchrone avec l'hypothèse, parce que c'était une hypothèse pendant très longtemps, peut-être aurait-elle connu le même succès que l'ADN, hein, c'est possible.
En tout cas, on le sait maintenant et on ne peut que le dire et le faire passer, et vous, vous le faites passer en image aussi. Christian Sardet, le vivant marche à l'hydrogène, assez étonnant. On reste dans cette question, pourquoi une telle unité de tout le vivant autour de la question de toutes ces cellules là, qui nous constituent à tous les niveaux, de plus en plus complexes au fur et à mesure de l'évolution, et qui nous constituent parce que l'autre moteur de la vie, si j'ose dire, c'est la symbiose, hein, on en a parlé, et on va continuer d'en parler avec un nouvel éclairage, celui d'un chercheur que vous connaissez très bien, Éric Carsenti, qui a préfacé votre ouvrage « Les cellules, une histoire de la vie ». Biologiste, il a été le directeur scientifique de Tara Océan, médaille d'or du CNRS, pour toutes les découvertes que cette expédition, hein, on le rappelle, chargée d'étudier la vie dans tous les océans du globe et sous toutes ses formes, a permis de générer. Éric Carsenti était venu dans ce studio en 2015, hein, il y a un petit moment, pour partager quelques-uns des premiers résultats déjà fantastiques de Tara Océan et quelques-unes de ses surprises. On l'écoute.
Ce qui me surprend, c'est l'énorme quantité, non seulement de symbiose, mais de parasitisme, de commensalisme, enfin d'interaction.
Si d'interactivité entre tous ces organismes.
À toutes les échelles. C'est-à-dire qu'on voit des relativement petits protistes qui vivent en communauté, si on peut dire, avec plein d'autres bactéries, d'autres protistes, des choses comme ça. Donc c'est vraiment un monde d'échanges, de collaboration, un monde social très complexe. Et ça rejoint un petit peu des grandes questions de la biologie fondamentale, de l'évolution, si vous voulez. Parce que toute la question de l'évolution, c'est quelles sont les propriétés de la vie qui permettent aux organismes d'évoluer, c'est-à-dire de changer. Et plus qu'aux organismes, aux écosystèmes. Parce qu'en fait, ce qui évolue, à mon avis, c'est plus les groupes d'organismes que des organismes individuels.
Oui, c'est pas, vous le disiez, en plus qu'ils vivent en symbiose.
Ils vivent ensemble, on a tous besoin les uns des autres quelque part. Donc si vous voulez, pour savoir si un écosystème est robuste, il faut savoir s'il y a certains organismes, s'ils sont capables de survivre, qui sont au milieu d'un réseau par exemple, d'interaction, s'ils sont capables de survivre, le réseau peut survivre assez bien. Par contre, si celui qui est absolument essentiel pour beaucoup d'autres organismes meurt, tout un tas d'organismes vont mourir. Donc en fait, la robustesse, si vous voulez, de la survie d'un écosystème, ça dépend de quelques organismes aussi, hein, quelque part. Donc c'est très important d'étudier ça en détail, parce que ça peut nous donner des idées sur comment, justement, si on peut, avec les méthodes modernes de bioinformatique, identifier ces organismes clés.
Éric Carsenti, qui nous rappelle, et c'est essentiel aujourd'hui, à quel point tout est lié, à quel point nous ne sommes jamais seuls et qu'on ne pourra pas fonctionner seul, en fait. C'est ça aussi, Christian.
Tout à fait, tout à fait. Bah, j'ai intitulé le dernier chapitre en réponse au premier chapitre qui demande qu'est-ce que la vie. Une sorte de réponse en dernier chapitre, c'est un réseau social de cellules.
La vie, c'est un réseau social de cellules. Voilà. C'est que par ces connexions-là que ça fonctionne.
Absolument. Je crois que c'est vraiment l'essence de la vie, c'est l'interaction des cellules et l'interaction des organismes qui sont en fait des interactions de cellules.
Mais c'est phénoménal, parce qu'en fait, aujourd'hui, on se pose des questions sur une définition possible de la vie.
Oui.
Ça change de plus en plus, mais il y a une chose qui est sûre, c'est ça. C'est un réseau social. Ça peut être qu'en réseau et en interaction.
Oui, je pense que
nous sommes nous-mêmes des holobiontes, autres.
Holobiontes, voilà.
Un autre
concept qui n'est pas vraiment passé. Oui. Autant le microbiote est passé assez rapidement dans le public.
Nous sommes habités par tous les microbes et bactéries avec lesquels nous vivons.
Donc nous sommes des écosystèmes ambulants. Si on étend ça à l'ensemble de la vie, tous les organismes sont des holobiontes, c'est-à-dire des associations de biontes, biontes voulant dire les éléments du tout. Donc, effectivement, ce concept va, je pense, dans les années à venir s'imposer, parce que c'est une conception de la vie, de l'interaction entre tous les éléments vivant, et donc toutes les cellules, qui est très puissant et qui est très, je crois, réaliste.
En tant que biologiste, vous dites ça, et c'est aussi une réalité qui nous oblige quand même, nous,
tout à fait,
grands organismes évolués qui nous considérons tellement, tellement au-dessus des autres, alors que nous sommes faits de tous les autres vivants.
Et on s'aperçoit bien sûr que même nos comportements sont probablement dépendants de notre microbiote.
C'est ça.
Donc
l'infiniment petit qui nous habite influence sur nous et que nous avons aussi un rôle sur tous les autres écosystèmes.
Tout à fait. Donc, ces concepts-là sont petit à petit en train de révolutionner ce qu'on pense de la vie et de l'interaction entre les différents organismes vivants, que ce soit des bactéries jusqu'aux éléphants aux baleines.
C'est ça. Est-ce que vous pensiez en arriver à ce genre de... Enfin, ce n'est pas une conclusion, mais en tout cas, quelque chose d'aussi énorme que la vie, c'est un réseau social de cellules, quand vous avez démarré en biologie, en biochimie
Oui, parce que je me suis intéressé à ce qu'on appelle les jonctions. C'est-à-dire des jonctions, ce sont des canaux entre cellules qui permettent aux cellules de communiquer. Par exemple, les cellules de notre cœur, par exemple, elles sont toutes reliées entre elles par des canaux qui s'ouvrent et qui se ferment. Et c'est ce qui permet aux cellules de se contracter. Et ce sont des phénomènes électriques qui parcourent les cellules. Donc voilà un type de communication très rapide. Mais il y a des types de communication beaucoup plus lents. Des cellules qui s'envoient des petites bulles. On s'aperçoit maintenant qu'il y a un langage entre les cellules fait de petites bulles qui sont échangées, certaines qui contiennent des ARN, donc des messages en fait, un peu comme des lettres.
ARN messager comme des lettres.
Oui, comme des lettres. Donc il y a une multiplicité de phénomènes de communication qui sont relativement récents au niveau de leur compréhension. Par exemple, le langage de ces petites bulles n'est pas vraiment compris. On sait qu'il existe, on sait que... et ça a à voir aussi beaucoup avec les virus, parce que...
Oui, les virus vivants ou pas vivants, mais en tout cas aussi...
Parce que certaines de ces petites bulles sont en fait utilisent des éléments de virus. Les virus qui rentrent et qui sortent des cellules, donc ça a un sens. C'est des mécanismes qui en fait ont été réutilisés par la cellule, ou peut-être que les virus, on les a chippés aux cellules. C'est très difficile de faire des catégories très...
Bien sûr, oui, c'est ça, au fond, les catégories explosent un peu, puisque c'est les liaisons entre catégories qui sont très importantes.
Et les virus, évidemment, sont j'ai toujours pensé, depuis très très longtemps, de façon un peu intuitive et pas tellement étayée, que les virus étaient une sorte de langage entre les cellules.
Les virus, une sorte de langage entre les cellules.
Alors, je ne sais pas si l'avenir... dira que c'est effectivement un langage, mais je pense que les cellules peuvent utiliser comme des messagers en fait les virus, ou peut-être que les virus ont asservi les cellules. Certainement, ils les ont asservis puisqu'ils sont capables de complètement les réorganiser pour à leur profit.
Mais en tout cas, c'est un champ de recherche passionnant et qui est ouvert aujourd'hui.
Oui, très ouvert. Je pense qu'il ne faut pas avoir des idées trop arrêtées sur ces choses-là, parce que ça va énormément évoluer. Et puis, il y a une révolution en biologie cellulaire qui est en marche depuis une dizaine d'années, qui est l'organisation interne des cellules et les façons de former des espèces d'associations, un peu comme on mélange de l'huile et de l'eau. On a ces micelles, et c'est ce qui se passe aussi dans les cellules. Ça, c'est relativement récent, et c'est en train d'envahir tous les champs de connaissances cellulaires.
Autour de la question, quel chantier dans l'étude de l'unité du vivant, et qu'est-ce que ça devrait nous inspirer? Je vous propose d'y réfléchir, chers amis auditrices et auditeurs, à l'écoute d'un autre morceau inspiré par vos recherches sur le plancton, Christian Sardé. C'est à partir de vos chroniques sur le plancton que deux rappeurs italiens, Doc Demi et Fabio Musta, ont composé ce morceau qui s'intitule « Plancton Blues » sur RFI.
È una notte d'estate senza la luna, in una profonda baia dove il mare si avventura, in una insenatura tra due lembi di terra e una nera ripida altura su cui le luci di una mega metropoli mi mano luci più chiare là sulla volta del cielo più nero. Qua giù son gialle le bianche, fanno lassù capolino, ma poi tra queste e quelle tutte ad un tratto compare blu sotto il pelo del mare, una terza luce pare un ectoplasma. No, non è un fantasma.
è la luciferina che accende luce marina in una costellazione che solo sembra minore, che chiaman Plankton Boy. They're like a ghost in streams. What you gonna do if they run out? No life, no life, no life, no life down here. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che fa respirare me e te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che dà da mangiare a me e a te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che fa respirare me e te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che dà da mangiare a me e a te. Plankton, in greco vagabondi dell'oceano mondo. Organismi fatti d'acqua dove l'acqua abbonda e li trasporta dai fondali fino a sopra l'onda. Quanto spilli grandi e puoi vederli da una sonda in orbita spaziale sulla Terra. Quando fanno il loro bloom fanno qua il pianeta blu e giù l'effetto serra. Questi cosi che non vedi hanno invece tanti ruoli. Producono l'ossigeno la metà che tu respiri. Danno cibo ai pesci più piccoli e quindi a te che mangi queste pure quelli grandi e sopravvivi. Non oso immaginare la mia vita se sparissero. Questa terra tornerebbe pulviscolo. Non oso immaginare la mia vita se sparissero. Questa terra tornerebbe pulviscolo. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che fa respirare me e te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che dà da mangiare a me e a te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che fa respirare me e te. Cos'è che illumina il mare? Cos'è, cos'è? Quello che dà da mangiare a me e a te. La
prima volta. E c'est quoi? Bah, c'est le plankton blues. Ils ont tout compris, hein, les hip-hoppers italiens Doc Demi et Fabio Musta, très inspirés par vos chroniques du plankton, Christian Sardet. M'est avis que vous allez encore en inspirer beaucoup d'autres, artistes, musiciens et autres, avec votre nouvel ouvrage, fabuleux, je l'ai dit, Les Cellules, une histoire de la vie qui vient de paraître aux éditions Ulmer et dont nous avons d'ailleurs un exemplaire à vous faire gagner, chers amis auditrices et auditeurs. Autour de la question, pourquoi une telle unité du vivant et pourquoi et comment portons-nous en nous, dans chacune de nos cellules, un peu de toute l'histoire du vivant? Je propose un dernier éclairage, c'est celui du préhistorien et archéologue Ludovic Slimak.
On s'aperçoit que chez l'humain, mais chez les êtres vivants d'une manière générale, la genèse des individus passe par un certain nombre de phases qui rappellent leur grande évolution. Là, non plus sur l'évolution de l'individu, mais celle de la population sur des millions d'années. Mais effectivement, quand on est dans le ventre de sa mère, on est dans l'élément liquide et ça nous renvoie effectivement à nos origines marines de tous les mammifères, de tous les vivants qui sortons des eaux. Et effectivement, il y a ce parallèle tout à fait remarquable entre les différentes formes de genèse et les différents degrés de la genèse. Qu'est-ce que ça dit de nous? Ça, c'est plus compliqué après à manipuler, mais ça nous rappelle effectivement que nous sommes en tout cas matière animale et qu'il n'y a pas d'exclusivité humaine. L'humain est un animal parmi les animaux et se replacer dans cette sphère-là et dans ces évolutions-là sur des millions d'années, c'est quelque chose d'absolument fondamental pour pouvoir nous exister à notre juste place et pas au-delà.
Christian Sardet, vous voulez réagir? Parce que j'ai l'impression que c'est un peu ce que vous cherchez à faire passer aussi.
Ça m'a fait penser à une chose que j'ai trouvé dans une publication anglaise, assez tardivement d'ailleurs, parce que je me posais la question de pourquoi est-ce que parmi les éléments, il y en a plus d'une centaine dans l'univers, la vie en fait n'en utilise qu'un quart. Alors on pourrait se dire la vie devrait utiliser tous les éléments. Et en fait, quand on remonte aux éléments qui sont utilisés et leur fréquence et leur concentration, on s'aperçoit qu'en fait que c'est la composition de l'eau de mer qui était fondamentale. Donc en fait, la vie ayant démarré dans le milieu marin, certainement,
elle a utilisé
ce qui était de façon majoritaire. Donc on a en nous les traces de cette démarrage de la vie, évidemment, et certainement beaucoup d'autres traces. Ne serait-ce que les molécules, évidemment, sont des molécules qui étaient là déjà il y a 3 milliards d'années. Alors, elles ont évolué, mais les éléments étaient déjà là.
Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça a changé en vous, Christian Sardet? À la fois toutes vos recherches quand même autour de la biologie, autour du plancton, et puis tout ce travail artistique, parfois qui a donné lieu à des livres, à des films. Enfin, vous avez voilà cette matière, et vous essayez de faire passer, de nous faire passer à tout le monde. Ce livre est très grand public, oui. Hein, il est beau, on peut le prendre dans tous les sens, mais il est en même temps très juste. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Enfin, comment vous voyez la vie, le monde, votre vie et notre monde?
Pour moi, la biologie était une vocation, clairement. Très tôt, mon grand-père m'a offert un petit microscope et je me suis posé des questions autour de mais qu'est-ce que c'est que la vie microscopique, hein? Parce que finalement, elle n'est pas différente de la nôtre. C'est déjà la vie. Donc, toute ma vie, j'ai été vraiment fasciné par cette histoire et je crois que c'est dans chacun d'entre nous, à des degrés divers. Donc moi, j'ai creusé ce sillon. Et puis, comme je n'étais pas enseignant, j'étais chercheur professionnel, je me suis toujours demandé comment est-ce que je pourrais partager. Donc, je n'avais pas en face de moi une classe. Évidemment, j'ai fait un petit peu d'enseignement, mais pas de façon systématique. Donc, j'ai cherché d'autres moyens de partager ma connaissance, y compris avec des façons non verbales, qui sont le dessin ou les films, pour essayer de passer outre la barrière de, je pense, que dans beaucoup de personnes, toute association avec l'enseignement formel, l'école est un arrêt.
C'est ça, c'est-à-dire que vous arrivez à passer par-dessus et en même temps, il y a la beauté quand même, Christian Sardet. Parce que
oui, parce que la vie, c'est un émerveillement.
C'est un émerveillement. Voilà. Et quand on la regarde, comme vous nous la faites regarder, et comme vous nous la faites passer avec vos dessins, avec ses couleurs, je vous dis, chers amis auditeurs, on est à la radio, mais c'est quoi? C'est un peu comme des dessins aborigènes, c'est très coloré. Il y a la beauté qui nous scotche.
Oui. Les couleurs, c'était vraiment une volonté d'avoir un code graphique. C'est-à-dire que les chromosomes sont bleus, les membranes sont blanches ou jaunes, les mitochondries sont rouges. Mais ce n'est pas des couleurs qui sont totalement arbitraires pour moi, parce que j'ai vécu l'explosion de la microscopie.
Et vous avez vu apparaître ces couleurs.
Voilà, et les chromosomes au début, ils étaient bleus, en fluorescence. Donc
vous arrivez même à nous faire passer tout ça et cette couleur-là. Un grand merci, hein, Christian Sardet, d'être venu en direct. On pourrait continuer des heures, je pense, avec vous. En tout cas, merci d'être venu partager cette unité de la vie. Je rappelle le titre de votre ouvrage merveilleux, à tous les sens du terme, « Les cellules, une histoire de la vie » aux éditions Ulmer. Un voyage d'art et de science à déguster sans modération. Vous revenez quand vous voulez, Christian Sardet.
Je vous remercie et je tiens à vous dire que j'ai écouté pas mal de vos émissions en venant en voiture et j'ai vraiment apprécié vos
Ravie
émissions.
Ravie de vous compter parmi nos auditeurs. Autour de la question, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à David Brocouet pour la réalisation. On se retrouve en direct demain, si vous le voulez bien, pour une autre exploration de et dans notre cerveau avec la neuropsychologue Sylvie Chocron qui a mené l'enquête pour découvrir ce qui se passe dans la tête et dans le cerveau de personnalités exceptionnelles comme de gens plus ordinaires. Résultat, pourquoi sommes-nous à la fois tous pareils et tous différents? Autour de la question, en quoi notre cerveau est unique et comment utiliser au mieux nos formidables capacités cognitives. À suivre demain avec Thibaut Baduel à la réalisation et Caroline Fillette en coulisses, Caroline Nachowski au micro pour vous servir. Un grand merci pour votre curiosité et votre interactivité. Surtout, gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. À l'écoute de RFI, c'est bientôt l'heure du prochain journal.